Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La Bible le déclare. Un jour, Jésus-Christ reviendra. Toutes choses alors deviendront nouvelles. En ce jour, les croyants ressusciteront et ils vivront éternellement dans la présence de Dieu, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
Beaucoup s'interrogent sur la nature de la nouvelle création et de la vie éternelle. Fort heureusement, la Bible nous apporte quelques réponses à ce sujet. Elles se trouvent essentiellement dans le livre de l'Apocalypse. Ce livre n'est pas toujours facile à comprendre, mais dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous allons nous pencher sur quelques textes qui nous éclaireront sur notre espérance éternelle.
Toutefois, auparavant, Sandra va nous lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, les versets 22 à 27. Puis Yann et notre invité Robert nous parleront de la signification de ce texte.
La venue principale de la ville était d'or pur, transparent comme du cristal. Je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long du jour, les portes de la ville resteront ouvertes, car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des nations. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Merci et bonjour Robert. Bienvenue sur le plateau d'Espérance aujourd'hui.
Merci Yann et bonjour à tous. Un jour, Jésus reviendra. L'ancienne terre et les cieux disparaîtront, alors que de nouveaux cieux et une nouvelle terre apparaîtront. L'apôtre Jean a eu une vision, riche en images sur cet avenir merveilleux. Nous savons que la ville dépeinte dans sa vision représente l'Église, rendue parfaite le jour du retour de Jésus. Cette ville évoque la beauté du peuple nombreux, riche en diversité que Dieu a sauvé. Cette ville décrit aussi sa prospérité, son bonheur dans la vie éternelle.
Merci Robert pour ce résumé. Mais que pouvons-nous apprendre de plus des versets que nous venons de lire?
Ces versets parlent surtout du fait que dans la nouvelle création, Dieu habitera parmi son peuple. Dieu sera présent avec lui. Les yeux de tous le verront.
Mais n'est-il pas présent avec nous aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Mais nous ne voyons pas Dieu, ni ne l'entendons, tel que je peux vous parler et vous regarder. Aujourd'hui, il existe comme un voile séparant la terre matérielle d'avec les lieux célestes qui sont spirituels. Ces deux lieux sont séparés, mais lorsque Jésus établira toute chose nouvelle, la nouvelle terre et les lieux célestes seront réunis à jamais. Désormais, plus rien ne les séparera.
Expliquez-nous pourquoi aujourd'hui ces lieux sont séparés.
Oui, il nous faut revenir tout au début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Dieu créa la terre où il vivait en communion parfaite avec les tout premiers êtres humains, Adam et Ève. Dieu marchait avec eux dans le jardin, le paradis. Il les y rencontrait. Chacun se voyait face à face. Tous pouvaient converser ensemble. Dieu était présent avec Adam et Ève de façon intime et directe. Il y avait entre tous une grande proximité. Les lieux spirituels et terrestres étaient unis, en harmonie parfaite. Toutefois, cette communion a basculé le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit de l'arbre interdit. Nous lisons les conséquences de leurs actes en Genèse chapitre 3. Nous apprenons entre autres que Dieu dut chasser Adam et Ève du jardin et qu'il en ferma l'entrée. Dès cet instant, Dieu n'a plus été présent avec les hommes de la même manière. Dieu est le Dieu saint, il ne peut tolérer le mal, il doit s'en séparer. De ce fait, il a établi une séparation entre les lieux célestes et terrestres, comme un voile qui cache sa face, comme un obstacle entre lui et les hommes.
Les premières pages de la Bible commencent donc avec cette mauvaise nouvelle. La perte de tant de bénédictions et la rupture de notre relation avec Dieu. Toutefois, les dernières pages de la Bible, contenues dans le livre de l'Apocalypse, offrent cette vision d'une nouvelle création où Dieu demeurera à nouveau parmi son peuple. Et puis, dans le texte lu, il est beaucoup question de lumière et de ténèbres.
Oui, dans cette cité descendant des cieux, la nuit n'existera plus. Il n'y aura plus de ténèbres, ni d'obscurité. Il est aussi écrit que cette ville n'aura pas besoin de la lumière du soleil, ni de la lune, car Jésus lui-même l'éclairera.
J'imagine une fois de plus qu'il s'agit là d'images qu'il ne faut pas trop interpréter littéralement.
C'est exact, Yann. Dans la Bible, la nuit et les ténèbres sont des images évoquant les malheurs, tels que l'ignorance spirituelle, les mensonges et la domination de Satan. Ces termes rappellent aussi le pouvoir des pratiques occultes telles que la sorcellerie, la divination et l'idolâtrie. Toutes ces choses seront absentes de la cité de Dieu. Autrement dit, le peuple de l'Éternel en ce lieu ne sera plus jamais affligé par l'obscurité, car il vivra dans la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Dans cet âge présent, les ténèbres, les puissances spirituelles maléfiques exercent une influence néfaste et pesante, même sur le chrétien. Chers amis, soyez-en rassurés, quand Jésus reviendra pour créer toute chose nouvelle, alors nous serons entièrement libérés des ténèbres et nous jouirons parfaitement de sa lumière.
Donc le peuple de Dieu sera délivré de tous les maux et les malheurs liés à la domination de Satan. Mais le péché non plus n'aura pas de place dans cette cité.
Vous avez raison, Yann. Cette cité, qui est l'Église amenée à la perfection, représente un lieu pur. L'avenue principale est faite d'or, aussi transparent que le cristal. Cette image évoque la pureté. En effet, rien d'impur ne pourra jamais entrer dans cette ville. Quiconque, au jour du retour de Jésus-Christ, sera trouvé impur, sera banni de cette cité. Il n'aura aucune place parmi le peuple de Dieu.
Mais comment être trouvé pur le jour du retour de Jésus-Christ? Un long jeu et de taille. Être banni de cette cité merveilleuse, c'est tomber dans un destin effrayant.
Oui, l'enjeu est de taille. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Car seuls ceux et celles qui auront été lavés dans le sang de Jésus seront considérés comme purs. Nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes de nos propres fautes. La pureté telle que Dieu la conçoit ne peut être ni achetée ni gagnée telle une récompense. Non, Jésus est mort sur la croix en s'offrant en sacrifice pour les péchés. Il rend pur au prix de sa vie quiconque croit en lui. Il purifie quiconque met sa foi en lui, quiconque lui confesse ses fautes et place en lui seul son espérance.
Merci Robert pour ce rappel important. Mais que dire aux chrétiens en lutte avec le péché qui guerroie dans leur cœur et qui, en conséquence, se sont découragés?
Une fois de plus, regardons notre avenir avec foi. Un jour, Jésus créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nos cœurs aussi seront changés. Ils deviendront purs et nous serons alors libérés de cette constante lutte contre le mal. Dès ce jour, le péché n'aura plus de place dans la nouvelle création. Il n'habitera plus, non plus, dans nos cœurs.
Voilà une très bonne nouvelle. Voudriez-vous ajouter quelque chose pour conclure?
Je voudrais citer quelques paroles de l'apôtre Paul, qui, fort de cette espérance, n'a pas perdu courage toutes les fois qu'il était confronté à des circonstances difficiles. Aujourd'hui, ces paroles peuvent nous aider à tout endurer et à persévérer contre vents et marées. Elles peuvent nous donner du courage, nous permettre de garder notre espérance. Écoutons donc les paroles de Paul. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement.
Merci Robert. À présent, nous allons passer à notre courte méditation biblique. Nous nous attarderons encore sur les écrits de l'apôtre Jean en parcourant sa première lettre. Mais d'abord, Sandra va nous lire au chapitre 3 les versets 1 et 2, puis Claude nous fera part de ses réflexions.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste.
Rappelons-le, l'apôtre Jean écrit cette lettre à des chrétiens troublés parce qu'ils avaient reçu des enseignements mensongers. Dans les versets que nous venons d'entendre, l'apôtre rappelle aux chrétiens leur véritable identité. Ils sont enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, quel privilège, quelle vérité merveilleuse. Être enfant de Dieu, c'est le privilège et la joie que Dieu accorde à quiconque met sa foi en Jésus. Mais pourquoi Jean trouve-t-il nécessaire de rappeler ces vérités à ces chrétiens? Pour qu'ils ne soient pas tentés de partir à la recherche d'autres connaissances, de nouveautés, quand en fait ils possèdent déjà les meilleurs privilèges, le statut d'enfant de Dieu, l'expérience d'une relation privilégiée vécue avec Dieu le Père, et tout ce que cela implique. Mes chers amis, si vous avez la foi en Jésus, Dieu alors vous appelle son enfant. Quelle vérité! Cette vérité est suffisante. Nous n'avons plus besoin de courir après toutes sortes de nouveautés apportées par de faux enseignants, mais nous devons plutôt approfondir cette relation privilégiée avec notre Père et apprendre à vraiment en jouir. Si nous sommes enfants de Dieu, nous possédons tout le nécessaire. Nul besoin d'écouter les faux enseignants qui insistent pour dire qu'il nous manque quelque chose. La prochaine fois, je parlerai davantage de ce que cela signifie être enfant de Dieu. Mais en attendant, n'oublions jamais que ce cadeau de la part de Dieu est merveilleux et qu'il nous comble largement.
Merci Claude de nous avoir rappelé l'importance de cette vérité si précieuse.
En attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.